Alien et les garçons, épisode 24. Bienvenue dans toi, monde meilleur.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons. Bonjour tout le monde.
Bonjour Thomas.
Bonjour Florian.
Bonjour Vic.
Bonjour Thomas. Bonjour Florian.
Bonjour Vic.
Quelle introduction à 100 à l'heure.
Ah oui, on est un peu au ralenti. L'épisode va durer 20 heures, environ 21 heures peut-être même.
Voilà. Passez-le en accéléré.
Passez-le en accéléré. On peut faire ça sur les applications podcast. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
C'est le grand retour du lendemain de fuite.
C'est vrai que d'habitude on boit pendant l'épisode et là on a décidé de boire la veille. Du coup, on est vraiment bien. Très compliqué. Quoi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir exactement? Florian a fêté ses 30 ans. Bravo,
c'est
Florian.
Ça, exactement. Merci beaucoup. Bravo à ma maman qui m'a mis au monde. Et du coup, 30 ans après, j'ai 30 ans.
Exactement. Et incroyable. Et du coup, et 30 ans et un jour après, on est au bout du rouleau.
C'est clair.
C'est très très dur. On est vraiment très très mal, mais on est là pour vous, évidemment. Et du coup, je pense qu'on va. Je suis pas sûr qu'on va aller jusqu'au bout. On va peut-être arrêter avant la fin.
On fait une chronique et demie.
En tout cas, sache Florian que tes 30 ans, c'était très sympa.
Bah merci beaucoup.
Voilà. Sache que j'ai passé une bonne soirée.
Que tes 30 ans devaient certainement être sympa aussi, mais j'y étais pas.
Non, c'est vrai. Mais c'est parce que je les ai pas encore.
C'est ce qu'on dira.
Non, mais j'ai passé une bonne soirée et notamment on a découvert un jeu où on devait jeter des sacs de maïs dans des trous.
Comment ça s'appelle? Cornhole.
Cornhole. Et je me suis rendu compte que j'étais
tapez
très
tous
nul.
Cornhole dans YouPorn, elle dit. Vous allez tomber sur un truc sympa.
C'est une planche de bois avec un trou et il faut jeter des sacs de maïs dedans, un peu comme à la pétanque où il faut se rapprocher du cochonnet.
Ouais, c'est une sorte de pétanque du pauvre.
Autant je suis champion de France 98 de pétanque en doublette, autant cornhole, je me suis rendu compte hier que j'étais vraiment nul.
C'est vrai que t'es vraiment pas bon.
Vraiment dingue.
C'est dommage quoi, parce
et
que
j'ai
c'est
essayé
pourtant,
de le jeter comme une boule de pétanque.
Ah, faut
mais
pas.
En fait, non, non.
Faut le jeter par en dessous, tu vois. Faut presque le pousser un peu.
Ouais.
Tu vois.
Bah, en tout cas, voilà, le cornhole c'était bien, mais je suis nul.
Je vais essayer de reprendre le contrôle sur cette émission. Ok, ça vous dérange pas? Ok, comme on disait, on n'est pas top là. Et du coup, en effet, je pense qu'on va avoir besoin de se confier à plusieurs moments. On va peut-être papoter un peu.
Bon. Ah ouais.
C'est une émission un peu papote, hein, voilà. Mais on avait quand même une thématique, vous vous souvenez?
Oui,
tout à fait.
Rayé bleu et blanc ou rayé blanc et bleu, je ne sais plus.
Je sais pas.
Rayé bleu et blanc.
Est-ce que ça a une incidence?
Terrible pour moi.
Ah oui?
Non, c'est pas vrai, les bleus.
D'accord.
Donc ça nous a été donné par Poki Poki Poki.
Merci Poki Poki Poki.
Merci Poki Poki Poki. Alors des commentaires sur cette thématique.
Bah, déjà, j'aimerais bien savoir, Florian, vers quoi à peu près vous êtes allé, parce que c'est, pour le coup, il y a énormément d'interprétations possibles de ce thème. Tu vois, c'est pas comme digestion ou réveil.
Bah,
ou
du coup, pour dire la vérité, j'ai voulu partir dans les marins au début. Ah ouais. Un peuple de marins de l'espace.
Intéressant.
J'ai tout plaqué.
Comme les Shaddock.
J'ai tout plaqué.
Comme les Shaddock. Les Shaddock, c'est des marins de l'espace.
Non, mais il y a un marin Shaddock. D'accord, qui lui navigue dans l'espace.
Ok. Moi, je suis parti un peu. Je suis parti vers la Bretagne.
Eh bah,
pour ne rien vous cacher.
Bah, c'est pour ça qu'on a entendu Mano tout à l'heure.
Non, c'est pas vrai.
Et donc Florian, tu vas nous faire une chronique bretonne.
Oui, tout à fait.
Très bien. Donc c'est bien parce que ça marche bien tout ce qui est régional en France, tout ça.
Bah oui, non, mais je me dis que pour comment dire, pour notre branche nationaliste d'auditeurs, ça peut
ouais,
pas mal.
Ouais, c'est bien. Je pense que d'ailleurs le prochain épisode sera un spécial ch'ti.
Ouais, ok.
Parce que c'est porteur, ça marche bien.
Très bien.
Vic, toi, tu vas nous parler de quoi du coup?
Ben, je sais pas. J'arrête pas de repenser à de la science-fiction bretonne et je trouve ça déjà assez sympa comme principe. je trouve ça intéressant. Moi, je vais vous parler d'art.
Ah,
l'art avec un grand A.
Ah oui, non, tu nous as fait des colonnes de Buren, toi.
L'art avec une minuscule.
Tu as fait du Buren un peu, un truc comme ça, non?
Non,
bah, pas du
Buren.
Pas du
l'art. D'art.
Ok, très bien. Et ben moi, je vais vous parler. Du coup, ouais, oui, moi, je n'ai pas dit de quoi, hein, moi. Je
non,
vas-y,
pas.
Vas-y. Bon, moi, je vais parler de. Je vais vous faire une petite anticipation française.
Une
petite anticipation française.
Toi aussi, on sent quand tu te frottes la moustache. On parlait de ma barbe dans l'épisode précédent.
Ah, donc, on en donne plein d'informations sur nous que toi, tu as une barbe, moi, une moustache.
J'ai donné mon âge en plus. Hey,
il
a
30 ans, il est né à Pelloy-les-Vignes.
Non, c'est faux.
Si, bah, t'es pas né là-bas?
Ah non.
Bah, t'as vécu là-bas.
Et surtout, en plus, tu donnes vraiment beaucoup d'infos. Tu vas donner mon adresse bientôt, mon numéro de téléphone, mon 06.
Ton numéro de téléphone est dans 06, ouais. Bon, c'est super. Donc, on s'est dit tout ça. Et vous savez ce qui se passe à la toute fin de cet épisode? Si on va jusqu'au bout, parce que clairement, c'est pas gagné.
C'est un autre grand retour.
C'est le quiz de Florian
tout
qui revient.
Ouais.
Et d'entre les morts, quoi, clairement.
Ah ouais.
C'est, on n'y croyait plus.
Et on va apprendre plein de choses. On va apprendre en s'amusant.
Plein de choses sur la Bretagne.
Ouais. Super, Jamy.
Mais, bah c'est bien parce qu'au moins t'auras une chance de te rattraper, parce que sur la saison 1 quand même, en termes de résultats des quiz, on n'a pas trop fait les résultats, mais tu vas peut-être pouvoir un peu te...
Moi?
Ouais.
Tu parles de moi là?
Comment
tu trolles?
Ouais, très bien. Bah, les auditeurs ont écouté la saison 1, ils savent très bien de quoi ils
entendent.
Merci à tous. Oui, par contre, je vais pas parler correctement du tout. Là, je suis en train de saliver, je suis à deux doigts de baver sur mon micro. On a changé les bonnettes, j'ai toute mouchetée de salive là.
On a changé les mouflettes.
C'est terrible. C'est très très dur les gars, vraiment. Hein.
Bon. Ça doit se sentir. J'ai l'impression, c'est étonnant là, l'ambiance qu'il y a avant la première chronique.
Mais surtout, c'est à la fois c'est le retour de l'hiver aussi.
Le retour de l'hiver. Moi, ça me gratte un peu dans le fond de la gorge.
C'est vrai. Pour tout dire aux auditeurs, pour dire clairement les choses, ce matin, donc, je suis rentré chez moi sur les coups de 6h, 6h30, et ce matin, je me suis levé et j'ai terminé ma chronique dans un état pas possible.
Ah, c'était ton tour, du coup.
Oh là là, c'est compliqué. Du coup, c'est moi qui vais commencer là tout de suite. Ouais. Et voilà, on va faire ce qu'on peut. Et avez-vous remarqué que ma voix est plus basse également?
et c'est quand même remarquable parce que tu as terminé ta chronique ce matin, toi, qui termine normalement tes chroniques deux mois en avance.
J'ai été emporté par la vie d'Aloca et voilà où j'en suis, quoi. Bon, bref. On attaque parce que là, on a bien papoté. Je pense que les gens, ils se demandent où ils sont. Ah, si vous êtes un nouvel auditeur, écoutez les autres épisodes peut-être, je sais pas. Je suis pas sûr de
mais non, celui-là, il va être très bien.
C'est un retour de confiance.
Ok, ouais, faisons confiance. Allez, on attaque.
C'est parti.
Le phénix qui fait cocorico.
La dégradation de la qualité de vie et des relations sociales, la paupérisation de la classe moyenne et la privatisation des derniers services publics ne laissent pas de place au doute. Nous nous trouvons dans un futur proche. La France n'est plus le pays glorieux qu'elle avait pu être. Les crises économiques à répétition et une fracture sociale de plus en plus marquée ont fini par venir à bout d'un État vérolé par la corruption. De nouvelles puissances ont émergé de par le monde, la Chine, le Brésil ou encore l'Inde, reléguant définitivement notre pays au rang de figurant. Les comptes du pays n'ont cessé de se dégrader depuis les années 70, ce qui devait donc arriver depuis bien longtemps, arrive finalement, la France a fait faillite. Pendant de longues semaines, la question s'est posée de ce qui devait advenir de cette coquille à présent vide qui était devenue l'Hexagone. Fort heureusement, la France n'est pas un pays comme les autres. Il s'agit du pays des Lumières, du pays des droits de l'homme, un pays magnifique à la culture rayonnante, moteur d'une francophilie devenue mondiale depuis bien longtemps. Les touristes, en outre, n'ont jamais cessé de fréquenter le territoire. Ils se comptent encore en centaines de millions. Des repreneurs se sont alors présentés, des grands groupes, des fonds d'investissement, et une proposition a finalement été retenue. Imiter le modèle irlandais, qui avait fait du pays en faillite un gigantesque lieu de loisirs spécialisé dans la dégustation de bière et de whisky. Soudain, tel le phénix, la France vient de ressusciter. Voici la promesse telle qu'elle est formulée dans la brochure promotionnelle de cette nouvelle version de la France. Où pouvez-vous passer les vacances les plus éblouissantes? Où pouvez-vous profiter des plus délicieux restaurants? Où pouvez-vous trouver la destination shopping par excellence? La réponse est bien sûr France, le plus vaste complexe de loisirs du monde. Plus encore qu'un simple complexe de loisirs, France est un lieu de divertissement complet à l'échelle d'un pays entier, avec cinéma, chaînes de télévision et activités sportives et culturelles. Profitez d'attractions touristiques mondialement reconnues parmi lesquelles la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel ou encore Versailles. Clou du spectacle, ne manquez pas Paris, la zone privée all-inclusive de France. Grâce au pass Haussmann, vous aurez accès à tout Paris et à ses services haut de gamme inoubliables. Buffet à volonté dans tous les restaurants de la ville Lumière et accès à ses musées et autres monuments. Une fois les enfants couchés, aventurez-vous sous les néons rouges de Pigalle, le quartier chaud de Paris, ou tremblez de terreur dans les catacombes et le cimetière du Père Lachaise. France, liberté, égalité, fraternité. La voici donc, la France, devenue une sorte de parc à thème dont le thème est précisément la France. L'entrée sur le territoire ne se fait plus sur présentation d'un passeport, mais plutôt d'un ticket. Il est possible de s'y déplacer gratuitement à bord de TGV pour se rendre aux différents lieux d'intérêt. Les villes ont été vidées de leurs habitants pour accueillir les touristes. Les Français logent maintenant en banlieue des villes ou dans des zones prévues à cet effet. S'ils ont dû déménager et quitter leurs anciennes vies, c'est pour le meilleur, car ils sont tous devenus employés de France. Reconnaissables à leurs marinières rayées bleu et blanc, ils ont pour mission de porter assistance aux touristes, de les guider, de les nourrir, de nettoyer les rues et de prendre soin des infrastructures. Sans transition, et pour clore cette chronique, je vous invite à découvrir avec moi la nouvelle campagne de promotion de notre beau pays.
Vos vacances rêvées sont forcément à France. Idéalement située au cœur de l'Europe, France est à la jonction de climats et d'ambiances variées. Allez-vous craquer pour Bretagne-Land ? Corse-Land ? Ou encore Alsace-Land. Chacun trouvera chaussures à son pied à France. Dotée d'une large gamme de divertissements, France ravira les grands comme les petits. Shopping so chic and fashion, visite culturelle d'authentiques châteaux ou reconstitution historique des émeutes de gilets jaunes. France, liberté, égalité, fraternité.
C'est fini. Notez cette voix.
Superbe voix. Mais c'était... tu l'as pitchée un peu, non?
Non, c'est ma voix naturelle.
C'est vrai, mais non.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, là, la publicité, donc c'était, pour que les auditeurs comprennent, c'était préenregistré. C'était tout calé. J'ai laissé courir l'hymne. Ça, c'est l'hymne alsacien.
Intéressant.
Je précise juste, parce que vous connaissez ma passion pour les Allemands, et les Alsaciens, c'est un peu nos Allemands à nous. Donc bon, voilà. Petit hommage à tous les Alsaciens. Big up. Bourse, tabou.
Les Alsaciens, c'est les Allemands de France.
C'est ça. Et du coup, ouais, non, là, ce qu'on entend, cette voix-là, c'est pas pitché, c'est ma voix naturelle de ce matin à 10h30.
Alors que t'étais rentré à 6h30.
Ah, j'étais, voilà, exactement. Donc, faites le calcul. Et voilà.
J'aime beaucoup l'idée d'une France centre commercial ou parc d'attractions. J'aime beaucoup cette idée-là.
En vrai, c'est de l'anticipation.
C'est pas très loin de ce qu'on vit aujourd'hui, à part que du coup, on n'a pas de métier du tertiaire autre que le tourisme. On n'a pas genre de marketing.
Non. Là, c'est exagéré, ça n'arrivera pas, le fait qu'on soit tous employés d'une sorte de truc. Tous les Français se mettent à bosser pour ça parce que c'est devenu une grosse entreprise. Bien sûr, ça n'existera pas, mais c'est Michel Houellebecq qui disait ça un peu, qui disait que la France, ça allait devenir une sorte de champ de loisirs pour le monde entier, où en fait, le tourisme est si important en France, notamment à Paris. Enfin, tu vois, par exemple, les Airbnb à Paris, ça représente le 16e et le 17e arrondissement. Le 16e
énorme,
et le 17e, en termes de logement. T'imagines juste Airbnb. Hein. Donc, tu te dis, ouais, évidemment.
Donc ça, tu rajoutes les hôtels, tu rajoutes les auberges de jeunesse.
Les couchsurfing, les machins, sans compter les mecs qui dorment dans des tentes, tout ça. C'est des touristes ou pas?
Tous ces campings à Porte de la Chapelle.
C'était de mauvais goût. Voilà. Et ouais, du coup, ça me faisait rigoler d'imaginer ce truc. D'imaginer cette France loisir, quoi.
Et France du loisir. Coup...
Personne n'avait relevé ma blague. Bon. Très bien, merci.
Allez, j'y vais.
Allez, ciao.
J'ai bien aimé le côté que je me suis dit que tu n'avais pas poussé, mais à la fin, tu en parles quand même. Du côté reconstitution de Gilets jaunes, ouais. Je me disais plutôt que de juste dire les habitants des villes, on les met en banlieue. C'était plus maintenant, ils sont un peu employés d'office de France, comme tu dis.
Ça.
Mais du coup, de les obliger à faire que toute la journée, ils font des reconstitutions. Toi, demain, tu pars sur le truc de Jeanne d'Arc.
Ouais,
toute la journée, tu fais ça. T'es obligé
C'est le puits du fou en grand.
Tu restes sur ton planning, en fait.
C'est ça. Alors, je trouvais que ça aurait été marrant de se dire qu'est-ce que tu peux faire de toutes les époques en France.
Mais même, j'imagine que tu pourrais être payé pour juste aller acheter du pain avec un béret et une marinière pour avoir vraiment le cliché pour que les touristes aient envie de. Ils ont envie de voir ça, les mecs.
Alors, de 10h à 11h, tu seras en terrasse en train de boire un café, de manger un croissant.
Exactement. Et après, tu vas jouer un peu d'accordéon et tu vois, et après, tu vas jeter des camemberts.
Tu peux peut-être faire le tour Napoléon où tu pars justement de Corseland et tu débarques en bateau avec les vieux bateaux de Napoléon et tu remontes, etc.
En fait, c'est un petit peu. Je sais pas si vous avez eu cette publicité pour les États-Unis, je crois, où genre tout le monde est arrêté dans la ville pendant quelques secondes en attendant justement que les touristes débarquent. À New York et tout à coup
tout s'anime
avec les gros clichés américains
c'est un peu ça que j'imaginais. Je trouvais que ça pourrait être marrant parce que c'est exagéré mais c'est pas déconnant d'un avenir proche parce que c'est un peu ce qui se passe dès là quoi.
Ne serait-ce qu'à la taille d'une ville, ça serait très rigolo quoi. Dans très peu de temps, tu vois. Mais c'est encore un bon concept, encore une idée de start-up.
En même temps les Disneyland et compagnie, t'en as, c'est des tailles de ville. Les gros parcs aux États-Unis, je sais plus, mais t'en as, ils embauchent, il y a 20 000 mecs qui bossent là-dedans. Quoi.
Mais t'en as en Chine, notamment, un parc d'attractions où t'as des reconstitutions de plein de villes, justement, notamment de Paris.
Miroir de Paris.
C'est certainement aussi en Chine, mais c'est aussi à Orlando, dans Disney World, ça s'appelle Epcot. Mm-hmm. Et en effet, t'as des pavillons de plein de pays où ils reconstituent des pays autour d'un lac où t'as plein de...
Bah, t'as aussi le truc aux Pays-Bas, mini-Europe, là, l'Europe miniature.
Alors oui, ça c'est une autre ambiance. Ah ouais. Et puis il y a la même chose en mini-golf où tu peux... Là on perd en qualité.
On dégrade au fur et à mesure.
C'est clair.
Ouais. Le parc Lego aussi.
Je ne sais pas, écoutez.
Non, j'ai bluffé, je ne sais pas. Mais il pourrait.
Il pourrait, ouais. D'ailleurs, c'est pas... Si, c'est... bon, je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas, j'ai des doutes sur tout.
De toute façon, la journée est dure. Non, j'ai pas envie d'aller à France aujourd'hui.
À France. Oui, j'aimais bien aussi le côté d'appeler ça France comme une... Ah, tu as déjà été à France?
France Trademark.
Exactement.
France SARL.
Donc la fin, c'était un enregistrement, mais tu m'avais pas dit que tu avais fait plein d'enregistrements pour cette chronique, justement. T'étais pas censé
À l'origine, la partie centrale de la chronique, c'était un prospectus que je lis. À l'origine, ça devait être une longue pub d'une minute et demie avec plein de sound design, plein de machin et tout. Mais en fait, je l'ai déjà fait. C'était oui, redondant, j'ai déjà fait dans l'épisode 2,
digestion,
épisode 2,
donc t'as
où j'avais fait
les
vos
pubs en texte normal.
Attends, je fais le renvoi parce que marketing, où je transformais vos corps en habitation pour extraterrestres et j'avais fait deux publicités, épisode 2.
Et moi, c'était Gastric Park.
Exactement.
Non, moi, c'était Gastric Park.
Ouais, et toi, t'étais Flo Flo Bar.
Ah oui, c'est vrai.
Flo Flo Bar, votre partenaire caisson. C'était la signature.
Voilà, Gastric Bar, je sais plus trop quoi.
Gastric Bar, l'aventure, je sais plus. Bref.
Mais donc, du coup, voilà, c'était des pubs que tu avais.
Ouais, c'était
que
ça voulait faire.
Et tu m'as pas envoyé tes pubs.
Non, et puis finalement, tu vois, j'ai conclu par une petite pub un peu plus courte, tranquille, histoire de conclure, parce que ce matin, il était 10h30, j'ai pas dormi, je sais pas comment conclure. Alors voilà, je suis reparti sur l'idée d'avant.
Je comprends. Je comprends, pas de problème.
Très bien. On passe à la chronique de Thomas, c'est ça?
Allez, on passe à la chronique suivante. C'est
non,
parti.
De moi, c'est la mienne.
Ah bah oui, parce qu'on vient de faire la chronique de Thomas. Ah oui.
L'œuvre d'Abraham Poltenbeck.
Le temps n'est qu'une illusion, petit. Tu crois qu'il s'écoule, mais c'est ton cerveau qui te trompe. Il donne du sens au temps, alors que crois-moi, le temps est bien la chose qui en a le moins du sens. Il n'a pas commencé quelque part, et surtout, il ne finira nulle part. Le temps est, disons, une construction mentale qui t'aide à différencier le présent de ta perception du passé. Mais tu peux me faire confiance, ce sont des conneries tout ça. Le vieux me fit un grand sourire en reprenant une bouchée. Nous étions les deux derniers dans la cantine du vaisseau. Je connaissais toutes ces histoires de relativité restreinte et de dilatation du temps. Mais j'étais perplexe. Pour le vieux, il n'y avait aucun doute, tout était déterminé à l'avance. On pouvait faire ce que l'on voulait, cela ne changerait rien à ce qu'il se passerait. C'est là qu'il m'a parlé des cartes. Imagine-toi le temps comme un grand tas de cartes posées les unes sur les autres. Chaque carte est la photographie d'une journée de ta vie. Il y a celle du passé, celle du présent et celle du futur qui coexistent tout ensemble dans le tas. Sur la carte qui représente aujourd'hui, on est tous les deux sur la photographie. Toi, tu as l'impression de ne connaître que les cartes en dessous de cette photographie, les cartes du passé. C'est là qu'est le piège. Ce piège s'appelle la mémoire. Plus ta mémoire va retenir de cartes, et plus tu vas vieillir. Et puis au bout d'un moment, tu connaîtras toutes les cartes du tas. Tu n'auras plus de pioche, et tu mourras. Mais comme je te le disais, n'aie crainte. Mémoire, souvenir, temps, tout ceci n'est qu'une illusion. Ce n'est pas parce que tu ne connais que les cartes du dessous que celles du dessus n'existent pas déjà. Tu sais, petit, il y a certaines personnes qui connaissent toutes les cartes du tas. Comment je le sais ? Oh, ça, c'est une longue histoire. Mais vois-tu, un jour, j'ai croisé la route d'une de ces personnes. Cela devenait de mieux en mieux. Maintenant, le vieux m'affirmait qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait prédire l'avenir. Le capitaine du vaisseau m'avait prévenu qu'il avait des cases en moins, le vieux. Mais je vous avoue que sur le moment, même s'il semblait totalement déraillé, il a surtout attisé ma curiosité. Je lui ai demandé de me raconter. Il s'appelait Abraham Poltenbeck. C'était un artiste connu dans plus d'un millier de galaxies à ce qu'il se disait. Et Abraham Poltenbeck avait en effet un pouvoir qu'il avait dédié à son art. Il connaissait les cartes du dessus. Il connaissait l'avenir. Pas simplement le sien, mais celui de civilisations entières. Il voyageait de planète en planète pour réaliser des œuvres qui prédisaient l'avenir de ces planètes et des peuples qui les habitaient. À chaque fois qu'il débarquait quelque part, c'était un événement considérable. Les gens étaient honorés de recevoir une personnalité comme Abraham Poltenbeck, et l'artiste restait le temps de produire son œuvre prophétique, puis il repartait aussi vite qu'il était arrivé. Et en découvrant l'œuvre d'Abraham, les habitants de la planète découvraient en même temps leur propre futur. C'était ainsi. Un jour, il arriva sur une petite planète de la Voie lactée appelée Terre. Les habitants de la Terre organisèrent une grande réception pour sa venue. « Abraham Poltenbeck est arrivé ! Abraham Poltenbeck est arrivé !» Voilà ce qu'on entendait dans toutes les langues terriennes. Les gens étaient surexcités. Ils allaient connaître leur avenir. C'était une chance pour ce petit caillou isolé qu'un artiste comme Poltenbeck l'ait choisi, et tous les chefs d'État terriens se réunirent afin d'accueillir le maître venu de si loin. Son arrivée provoqua scène de liesse et d'agitation aux quatre coins de la planète. Des millions de gens lui dédièrent des vidéos, des poèmes, des chansons et toutes sortes d'offrandes à leurs yeux inestimables. Au bout d'un moment, Graham Poltenbeck se retira une semaine dans un atelier mis à sa disposition et dont le lieu était gardé secret pour éviter tout débordement. Il peint alors un tableau qu'il offrit aux habitants de la Terre avant de repartir vers d'autres horizons artistiques. L'œuvre de Poltenbeck fut dévoilée au même moment à chaque endroit de la planète et tout le monde ne parla plus que d'elle. Le tableau était une grande toile blanche de 5 mètres par 5 mètres qu'une large bande bleue venait traverser de part en part sur le bas du cadre. Sur la bande bleue, Agraham avait placé un crâne humain qui semblait flotter en relief. Le vieux était tout fier de voir mes yeux ainsi écarquillés. Il m'avait happé dans son histoire. Je pensais que le tableau de Poltenbeck allait être quelque chose de vraiment, je ne sais pas, grandiose, d'étonnant, de presque magique. Mais non. Une pauvre toile blanche avec une bande bleue et un crâne humain. Sérieusement, c'était tout. Mon visage dut traduire ma déception parce que le vieux souria tendrement et reprit. Certains y voyaient quelque chose de très beau, d'esthétique et contemporain, là où d'autres y décelaient plutôt une arnaque, la plus grande arnaque de l'univers, comme ils disaient. Les médias en parlaient chaque jour et dans chaque langue. Jamais œuvre d'art n'avait suscité tant de discussions. Artistiquement parlant, c'est une réussite, hein. C'est vraiment... Mais ces lignes, vous avez vu ces lignes? Elles sont parfaites. Couleurs sont harmonieuses, c'est un fait, je vous l'accorde. C'est une sorte de bleu, mais je ne saurais pas vraiment le définir. Et dire que le plus grand artiste de l'univers vient de nous prédire notre avenir? Il y aura un avant Agraham Poltenbeck et un après Agraham Poltenbeck, c'est certain. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans les salons des habitations terriennes. Mais pour la plupart des gens, il restait tout de même une partie teintée de mystère. Et quel mystère ? Je ne sais pas pour vous, mais par contre, je ne comprends pas vraiment la prédiction. Enfin, vous comprenez, vous... Enfin, vous voyez le message, quoi. Et c'était bien là le problème. Personne ne comprenait le message. Des experts l'analysaient, des politiques lui collaient le sens de leur combat, et des responsables religieux les imitaient. Tous donnaient leur version de l'avenir selon Agraham, plus ou moins positive. Des religions se formèrent en réponse à ce tableau, ainsi que des courants artistiques majeurs. Mais très rapidement, tu peux l'imaginer, petit, se posèrent des questions aussi simples qu'existentielles. Pourquoi ce crâne? Était-ce un mauvais présage? C'était forcément le cas. C'était un symbole funeste. Certains y voyaient plutôt un réceptacle de vie, un symbole de voûte céleste par lequel les humains pourraient accéder à un niveau spirituel supérieur que symbolisait le blanc du tableau au-dessus de la bande qui, quant à elle, symbolisait plutôt la Terre qu'ils surnommaient eux-mêmes « planète bleue ». Les États commençaient à se diviser. Certains pays voulaient détruire l'œuvre pour casser la prophétie malheureuse. D'autres, au contraire, la défendaient envers et contre tout. Des guerres se déclenchèrent entre les États défenseurs de l'œuvre et ceux qui voulaient la détruire. Et tout cela dégénéra en une catastrophique guerre planétaire qui, malheureusement pour les terriens, alla beaucoup trop loin. L'œuvre fut perdue au cours de la guerre, qui bascula en moins d'une année en conflit nucléarisé majeur. Cela dura 112 ans. Les gens oublièrent même la raison de la guerre. Et puis un jour, l'humanité fut totalement éradiquée. L'œuvre d'Agraham Poltenbeck avait parlé. Comment ça, l'œuvre d'Agraham Poltenbeck avait parlé ? Le vieux m'avait berné, je ne comprenais pas pourquoi le tableau avait été une prophétie. Le blanc, le bleu, le crâne, quel rapport avec une guerre nucléaire sur cette planète? Mais encore une fois, le vieux dut constater ma déception, car il termina. Si tu avais pu t'asseoir sur un banc terrien quelques années après la mort du dernier homme, petit, tu aurais vu une grande étendue d'eau bleue, azur et profonde s'étendre sur un horizon infini. Au-dessus de cette eau, tu aurais vu un ciel blanc et opaque, monoxydé par les résidus d'uranium ayant recouvert la planète durant toutes les années du conflit. Et peut-être que près de toi, comme la dernière preuve d'une humanité disparue, tu aurais aperçu le crâne du dernier homme lentement flotter dans une eau probablement paisible et profonde.
Est-ce que les os, ça flotte?
Je pense que oui, un crâne, c'est creux.
C'est creux.
Il avait donc il avait raison. La prophétie s'est accomplie. Mais la question est du coup, est-ce qu'il a prophétisé la chose ou est-ce qu'il a provoqué la chose? c'est la fameuse question des de tout ce qui est de lecture d'avenir, quoi. Est-ce qu'il lise l'avenir ou est-ce qu'il provoque l'avenir?
Bah, en l'occurrence, là, il l'a provoqué. Que s'il y a eu une guerre, c'était à cause de son tableau qui était censé prédire l'avenir post-guerre.
Ouais. Et à ce compte-là, Paul Ten Bach, c'est Ashkenaz?
Paul Ten Bach, moi j'aurais dit que c'était belge.
Paul Ten Bach, ouais, je dirais plutôt flamand.
Ouais, très intéressant, très bien.
Parlons-nous de la musique, Vic. J'ai l'impression d'en connaître plein de morceaux, mais
Tirés du même film, enfin non, de la même série de films, pardon.
J'ai l'impression que c'est Wallace et Gromit, mais je suis pas sûr.
Non. Petit indice, c'est une série de 7 films.
7 films.
Ou peut-être 8 films, mais le dernier.
Harry Potter. On reparle. C'est vrai.
Ouais. J'ai reconnu un titre d'Harry Potter, mais pas tous, quoi.
Ils sont tous d'Harry Potter.
Intéressant. Même celui-là, ça doit être. D'accord, je vois très bien.
Ils sont de différents films. Chercher des. Maintenant, je vais voir dans les OST.
Et... c'est vrai qu'on arrive un peu au bout de l'inspiration musicale.
C'est dur, la musique. Moi, ça collait.
Ouais, ouais. Bah, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé. C'était. Surtout, t'as réussi à emmener le. Contrairement à moi, t'as réussi à emmener le thème de Pookie Pookie Pookie.
Rayé bleu et blanc.
Tu l'as emmené bien plus loin que ce qu'il était.
Là où
il
en fait, j'aimais bien l'idée juste d'un tableau bleu-blanc et on se demandait ce qui se passe du coup après l'artiste, l'avenir et puis qui provoque le truc. Enfin, j'aimais bien l'idée d'un tableau.
C'est même un tableau avec un crâne comme ça, ça s'appelle une vanité, je crois. Et c'est genre la vanité un peu ultime parce que c'est. La vanité, ça parle de ça en art. Mmh. C'est le fait que l'être humain, il va mourir et tout ce qu'on fait, c'est vain. Mmh. Et ben là, c'est la vanité.
Vanité de toute l'humanité.
Ben ouais. Formidable. Moi j'ai bien aimé. Florian, tu veux réagir?
Non, pas du tout. J'ai eu mes réponses sur la musique. J'ai eu mes réponses sur.
Et bah c'est super. On va passer du coup à la troisième chronique. Du coup, est-ce qu'on va peut-être écrire une quatrième chronique pour.
Non, parce que celle-là, normalement, devrait être assez longue quand même. Je pense que.
La tienne?
Ouais, ouais.
Ah, on est sur un gros morceau là.
On est sur un bon morceau, ouais.
Ok, c'est super. Puis après, on a le quiz.
Après, on a
le quiz. Surtout, je pense qu'on va devoir épancher tous nos. Pas nos soifs, parce que ça, nos soifs, c'est bon. Mais on va épancher tous nos problèmes de
dans
fuite.
Dans la conclusion, on va se.
Ouais,
on va s'étendre.
Ah, ça va, on va bien s'étendre très fort.
Puis après dodo. Hein.
Et après dodo, ouais, direct. Allez, à toi de jouer, Florian, fais-nous rêver. Emmène-nous loin. Vas-y, Florian, vas-y.
Chouchène abduction.
Erwan est breton. Et comme tous les bretons, il boit beaucoup trop d'alcool. Ce week-end ne fait pas exception à la règle. Après une dure semaine de cours au lycée professionnel Vauban de Brest, Erwan a besoin de relâcher la pression. Il passe prendre Éloan et Gaël dans sa Renault 5 Baccara, direction le Zodiac. La seule boîte de nuit de Plouarzel. Ce petit village du Finistère partage une particularité avec Erwan. Il est extrêmement à l'ouest. C'est même le village le plus à l'ouest de France métropolitaine. De par sa singularité géographique, il fait face, seul, au néant de l'océan. Un paysage désertique qui n'a que pour seul relief un phare abandonné depuis plusieurs années. Situé juste en face du Zodiac, de l'autre côté de la baie, il éclairait à l'époque de sa lumière accusatrice les âmes saoules, esselées, qui sortaient de la boîte de nuit après avoir perdu tout espoir de conquête, et l'équivalent d'une semaine de salaire dans de l'alcool bas de gamme au prix surévalué. Après plusieurs dizaines de minutes, Erwan et sa bande s'échouent sur le parking de la discothèque. Dans un geste désespéré d'embellissement physique, Éloan crache dans sa main puis la passe dans ses cheveux, tout en se regardant dans le rétroviseur chromé de la R5. Erwan, quant à lui, est plutôt beau gosse et n'a pas besoin de plus de préparation. Il est né prêt. Ce soir, c'est lui le boss, et il veut le faire savoir. Il sort son paquet de gauloises, qui se situe dans la poche avant droite de son jean Levi's 501. Il en tire une garrot et la place au coin de la bouche. Puis, dans un geste sec et précis, il prend son zippo, qu'il frotte contre sa cuisse, d'abord vers le bas pour l'ouvrir, puis vers le haut pour l'allumer, en moins d'un dixième de seconde. La classe. Une action spectaculaire pour la jeune fille pleine d'hormones et de boutons qu'est Enora, l'amour secret d'Erwan qui passe au même moment devant le pare-choc flambant neuf de la Renault. Elle jette un regard malicieux à l'adolescent, puis défile sur le podium de bitume, au ralenti, avec ses copines légèrement plus moches qu'elle. Lorsqu'elles approchent du vigile...
Super, pardon.
Lorsqu'elles approchent du vigile, il leur ouvre la double porte capitonnée avec une subtile révérence. Comme attirés par les sirènes, les trois jeunes hommes cessent toute activité et leur emboîtent le pas. Il est 22h49 lorsqu'ils pénètrent dans la pièce humide et sombre pleine d'adolescents en chaleur, en train de se trémousser. 11 minutes seulement avant la fin de la gratuité de l'entrée. Direction le bar, pour enquiller quelques verres de courage liquide, au goût prononcé de votre carré de boule. 30 minutes plus tard, la fête bat son plein. Le DJ lance sa plus belle playlist des années 80. Les enceintes crachent les premières notes de Maniac par Michael Sambello. Sur la piste, Enora donne tout ce qu'elle a, entourée de sa garde personnelle. Erwan le sait, il va devoir faire vite. Il a exactement 4 minutes et 8 secondes pour s'approcher d'elle, évincer de quelques coups de hanche bien sentis les deux copines qui lui barrent la route, l'impressionner par ses mouvements et l'embrasser. Il termine cul sec le fond de son verre, puis fend la foule. Sa chemise est déjà bien humide lorsqu'il se frotte aux inconnus. Il danse comme un beau diable, du moins, c'est ce qu'il pense. Du point de vue de ses copains, ses pas de danse ressemblent plus à une crise d'épilepsie. Ses yeux sont embués par les 6 verres d'alcool consommés trop rapidement, et le gel effet mouillé dans ses cheveux se confond avec la transpiration. Il approche, non sans mal, la barrière naturelle opérée par les 2 gardes du corps d'Enora, mais il est bloqué. Aucune brèche, aucune fissure où s'immiscer pour casser ce bouclier humain. Sans réfléchir, il établit une stratégie à la va-vite, puis passe à l'action. Il tapote l'épaule de la copine la plus moche des copines un peu plus moches qu'Enora et lui tend la main. Elle est aux anges. Il danse avec elle une poignée de secondes et l'entraîne une 50aine de centimètres plus loin. Juste ce qu'il faut pour pénétrer dans la zone de promiscuité d'Enora. Dans une dernière rotation parfaitement calculée, il lâche la main de sa partenaire temporaire, puis se retourne. Ça y est, il est face à elle. Il lui demande alors s'il peut l'attraper par la taille. Elle accepte. Il s'active à reproduire les mouvements hypnotiques qu'il a appris en regardant la série Undo Stress. Jusqu'ici, tout a l'air de fonctionner à merveille. Ivre de confiance, il approche d'elle et commence à lui susurrer ses mots doux. « Tu sais que ton père est un voleur ?» Enora, elle-même très alcoolisée, à sa boisson préférée le Shushen Perrier, sourit. Il sent alors quelque chose monter en lui, quelque chose de puissant, d'incontrôlable. Il n'a pas ressenti ça depuis bien longtemps, disons une semaine. Il sent que ça vient, ça pointe à l'intérieur de lui. Serait-ce de l'amour ? Le désir sexuel ? Non. La musique s'arrête. Les dizaines de danseurs s'immobilisent et se retournent en même temps pour observer le spectacle. Erwan a vomi, sur Enora. Il court vers la sortie en essayant de rattraper le peu de dignité qui lui reste. Une fois dehors, le temps ralentit et Erwan reprend peu à peu ses esprits. Les yeux vides, plongés dans le ciel noir, il fixe les étoiles en essayant de comprendre ce qu'il vient de se passer. Il pense à Enora, qui doit pleurer aux toilettes en tentant d'enlever le vomi qui imbibe sa robe kukai. À Elouin et Gaël, qui doivent être pliés en deux à se foutre de sa gueule. Au lundi prochain, et les regards accusateurs qu'il va devoir subir, le walk of shame de la cour de récré, et à ce ciel qui bouge dans tous les sens. Ces étoiles qui tourbillonnent, qui lui donnent envie de gerber à nouveau. Putain d'étoiles, il se dit. Il ferme les yeux et les rouvre, plusieurs fois, afin de stabiliser sa vision et son cerveau. Mais rien n'y fait. Si la plupart des étoiles ont bel et bien ralenti la cadence, quelques-unes, 3 pour être précis, ont décidé de faire sécession et de voguer à la vitesse qu'elles veulent, et même où elles veulent, ce qui correspond à un comportement assez peu courant pour des étoiles. Mais Erwan est trop saoul pour s'en rendre compte. Subitement, les 3 points lumineux s'immobilisent et se mettent à grossir de plus en plus. C'est presque imperceptible au début, mais au bout de plusieurs minutes, les têtes d'épingle font déjà la taille d'une bille. Une bonne bille même. À tel point qu'Erwan ne peut plus ignorer cette espèce de triolisme céleste qu'il mettait sur le compte de sa cuite jusque-là. La bouche grande ouverte, la bave au coin des lèvres qui côtoie les restes de dégulis, il bloque dessus à mesure que les étoiles se rapprochent. Lorsqu'elles atteignent une taille comparable à celle du ballon de foot officiel du RC Lens, l'air se met à vibrer. Apeuré, il jette des regards inquiets autour de lui, afin de savoir s'il rêve ou si ce qu'il se passe est bien réel. Mais personne pour partager son inquiétude ou le rassurer. Il est seul face à ce phénomène qu'il n'explique pas. Les 3 points lumineux changent tout à coup de trajectoire et se dirigent vers la pointe de Korsen, où se situe le phare abandonné. Ils se mettent ensuite à tourner autour, à une vitesse incroyable. La lumière générée ressemble alors à s'y méprendre, à celle du phare lorsqu'il était en état de fonctionner. Tel un moustique, Erwan se sent soudainement attiré par cette lumière qui réchauffe son âme et qui l'apaise. Il marche automatiquement vers le bâtiment abandonné, en longeant la côte, les yeux rivés sur l'anneau lumineux. À mesure qu'il approche de sa destination, l'air se remet à vibrer et les étoiles à tournoyer de plus en plus intensément. Alors qu'il n'est plus qu'à une 100aine de mètres de la porte délabrée du vieux phare, l'air devient brûlant et presque irrespirable. Ce qu'il peut enfin définir comme étant des sphères de 2 mètres environ, vole à une telle vitesse que l'on pourrait croire qu'elles sont une 100aine. La lumière qui s'en dégage illumine le paysage et Erwan peut discerner chaque détail comme en plein jour. Tout à coup, elle devient si éblouissante qu'il ne peut plus garder les yeux ouverts. Étouffé par l'air incandescent qui rentre dans ses poumons et ne pouvant plus se diriger, il tombe par terre et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, Erwan se trouve dans une pièce d'un blanc immaculé. L'espace semble familier. La forme arrondie et les fenêtres font penser à Erwan qu'il se situe au sommet du phare. Mais à travers les ouvertures, il ne voit ni Plouarzel, son petit village d'enfance, ni la pointe de Korsen, qu'il connaît pourtant si bien. Le Zodiac semble désormais très loin, et Enora est le cadet de ses soucis car Erwan, au milieu de cette espèce de laboratoire, n'arrive pas à bouger. Pire encore, il ne ressent ni ne peut apercevoir son corps. Son champ de vision est limité et il ne le contrôle plus. Quand une porte s'ouvre sur le mur opposé, il a l'impression d'observer la scène à travers une caméra ou une télévision, comme une mauvaise série dans laquelle il est à la fois acteur et spectateur. Dans la nouvelle ouverture, une ombre approche. Erwan panique, mais ne peut rien faire. L'ombre se divise bientôt en plusieurs formes floues, au moins 5. Des formes a priori humaines, très grandes et longilignes. Au centre d'elles se trouve ce qu'il distingue comme étant un brancard, mais pour le moment, il n'arrive pas à voir ce qui se trouve dessus. Lorsque les formes entrent dans la pièce, Erwan est terrifié et hurle d'effroi. Un cri complètement silencieux. 4 humanoïdes à la peau grise se déplacent au centre du laboratoire, en glissant presque au-dessus du sol. Leurs bras, longs et fins, se confondent avec leurs jambes. S'ils sont bien attachés à la partie supérieure de leur corps, ils s'en servent aussi bien à agripper et pousser le brancard qu'à marcher de manière parfaitement fluide, provoquant cette illusion de flottement. Leur tête, d'un ovale parfait, possède 2 trous sombres et vides en guise d'orifice oculaire. Sur le sommet de leur crâne se trouvent des filaments transparents qui pourraient s'apparenter à des cheveux. Ils bougent lentement et de manière conjointe, malgré l'absence de courant d'air, comme s'ils étaient eux-mêmes vivants. Mais ce qui terrifie le jeune Breton, ce ne sont pas tant ces extraterrestres que le corps qui se trouve sur le brancard. Allongé sur le lit à roulettes, sur le ventre, se trouve l'exacte réplique du corps nu d'Erwan. Où serait-ce Erwan lui-même ? Il ne sait plus quoi penser. Le doute se dissipe rapidement lorsqu'un des aliens tend un doigt en l'air. Il s'étend et s'affine comme s'il s'agissait d'un outil télescopique. Au bout de celui-ci, un petit objet en forme de capsule clignote d'une lumière diffuse rougeâtre. L'humanoïde enfonce ensuite d'un coup sec et rapide le doigt télescopique et la capsule dans l'anus d'Erwan, qui ressent instantanément une douleur extrême à plusieurs mètres de distance. Le calvaire ne fait pourtant que commencer. Les autres scientifiques extraterrestres allongent eux aussi leurs appendices pour les glisser dans différents organes. Le cerveau, les reins, la colonne vertébrale, les poumons. Le corps inanimé ne semble pas réagir, pourtant Erwan souffre le martyr. Les doigts se déplacent ensuite, encore plantés à l'intérieur, le long de son anatomie, comme s'il s'agissait d'une simple motte de beurre salé. Au bout de quelques secondes, la douleur est si insupportable qu'il perd à nouveau conscience. Lorsqu'il ouvre les yeux, Erwan se réveille, échoué, sur le parking du Zodiac. Sa vision, encore floue, laisse apercevoir au loin le phare abandonné, éclairé par un soleil levant timide. À son sommet, il n'y a plus d'étoiles ni de points lumineux. Uniquement des fenêtres brisées par le temps et une bande de mouettes rieuses qui semblent se foutre de la gueule d'Erwan. Une fois émergé, il se lève, paniqué, et touche son visage et son corps. Il est bien là, présent, il le sent, jusqu'au dernier morceau de vomi séché au coin de sa bouche. Il halète et regarde autour de lui, mais personne n'est présent. Il prend une cigarette et l'allume en tremblant. N'était-ce qu'un rêve ? De la nuit de la veille, il n'en a que le souvenir. Aucune séquelle. Sur son corps, aucune trace de coupure, ni de trou laissant penser qu'il aurait subi un examen médical approfondi. Il prend par réflexe son téléphone portable sur lequel s'affichent une vingtaine d'appels manqués et des messages.
T'es où ?
Nora te cherche, elle t'en veut pas, promis.
Putain, mais qu'est-ce que tu fous ?
Bon, tant pis, on rentre à pied. On te laisse l'R5, de toute façon on n'a pas les clés.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Lorsqu'il tente de retracer son parcours grâce à Google Maps, le petit point ne semble pas s'être déplacé. Il reste coincé de 22h49 à 7h34 sur le parking du Zodiac. Malgré un sentiment désagréable d'incompréhension, il conclut, par l'intensité de son mal de crâne, à un cauchemar fiévreux, résultant d'une trop grosse consommation d'alcool. Il se laisse alors tomber sur ses fesses, en glissant le long d'un mur. Mais il se fige subitement. La cendre de sa clope s'écrase sur ses genoux. Ses yeux écarquillés trahissent une douleur légère, mais présente. Une douleur qui émane de son postérieur. Les semaines qui suivent, Erwan tente de recoller les pièces du puzzle de cette fameuse soirée. Mais il ne saura jamais exactement ce qu'il s'est passé.
C'était une métaphore ?
Pas spécialement.
Parce que genre un mec qui se réveille après sans savoir ce qui s'est passé en club qui a mal au cul, je demande. Je sais pas. Hein.
Je laisse le soin à chacun de faire sa propre interprétation de cette chronique.
Ah, quelle longue, longue chronique !
Oui, elle était un peu longue.
Je me suis assoupi deux fois, je t'avoue.
C'est vrai ?
C'est surtout parce que je suis fatigué, parce qu'elle était excellente.
Merci beaucoup.
Ça n'enlève rien à sa qualité. Plein de choses à dire. En fait, pour moi, c'était un peu un épisode de X-Files. Ça faisait vraiment genre, j'avais ambiance X-Files, je trouve. Breton.
Ouais.
X-Files breton.
C'est ça quand tu fais. C'est de la SF bretonne. Oui. Comme tu nous avais
c'est
promis.
C'est de la SF au beurre salé.
Mais c'est de la SF bretonne au beurre salé. Mais c'est surtout de la SF bretonne du passé. Donc c'est un peu de l'anticipation bretonne venue du passé. Enfin, il y a un côté un peu rétro-anticipation. Enfin, c'est
le passé au début de la chronique, mais à la fin, il a quand même Google Maps.
Oui.
Donc il faut savoir qu'il s'est passé un truc.
C'est pas vraiment qu'ils écoutent. En boîte, ils écoutent Maniac. Mais
bah oui, parce que c'est une playlist années 80. Comme au Zodiac, c'était la soirée spéciale années 80. R5, tout le monde a des R5.
En on va devoir en parler de ça après. R5. Vas-y.
R5. Pardon. Pour rester sur la Bretagne. Ils vont nous fumer, les Bretons.
Ah, mais
le premier son, on t'avait grillé.
On savait que t'allais mettre Mano, putain.
Il faut quand même l'expliquer aux auditeurs. Avant, on fait quelques petites balances et comme on vous a déjà expliqué, on lance tous les sons en live. Et pour bien s'assurer que les sons soient pas trop forts, etc., chacun notre tour, on passe, on met le casque et on règle les sons, le niveau des sons. Sauf que le niveau du son de Florian, quand il l'a réglé de la première chanson, était fort. Donc on a entendu les quelques premières notes avant qu'il baisse le son à travers le casque. On s'est dit, t'as pas mis du Mano. Il nous avait assuré que non.
Il a menti.
C'est la version instrumentale.
Il y avait les paroles, il était cheap et tout. J'avais envie de rapper du coup.
Mais à la fin, il y a quand même les voix.
Peut-être qu'on peut conclure en rappant.
Peut-être qu'on peut. Mais donc ça on va se faire fumer, mais voilà. J'ai bien aimé le légèrement plus moche qu'elle.
Ah ouais,
c'était bien.
Bah c'est stratégique, hein, on le sait très bien. Il faut toujours aller en boîte avec des copains un peu plus moches que soi.
Légèrement, parce que sinon ça repousse.
J'étais en club hier soir. Est-ce que vous pensez que...
Bah je sais pas, à toi de définir maintenant.
Oh putain, j'étais avec qui? Ah non, c'est bon.
Et ensuite toutes ces petites clins d'œil aux Bretons, à la Bretagne, des noms aux lieux. Enfin, il s'appelle Erwan et ses deux copains pareil, qui ont des noms très bretons. Et tu cites comme ça plein de choses. Et à un moment, tu compares la taille des boules lumineuses au ballon de foot du RC Lens, mais alors Lens c'est pas du tout en Bretagne par contre, t'es au courant.
Tant pis, c'est pas grave.
t'étais moyen au courant
parce que du coup c'est vraiment pas... Bon, voilà.
Non, pas du tout. J'écris un peu rapidement aussi, on va pas se mentir.
Non,
je me suis renseigné sur tout sauf sur Lens.
Je t'aurais pu dire Lorient ou un... Non mais bon.
Et je pense que c'est ça que j'avais en tête et j'ai écrit Lens, c'est de manière automatique. Bon.
Et du coup pour revenir sur, et après je te laisse Thomas sur le... Toi tu parlais que Thomas ça lui faisait penser à du X-Files. Il y a d'autres références. Déjà, bon, le doigt là, qui va lui enfourner dans l'anus, c'est le doigt qui s'allonge, c'est un peu comme si E.T. violait un adolescent.
Surtout qu'en plus, c'est un peu incandescent.
Putain,
au bout,
c'est mon enfance que tu violes en parlant de E.T. qui viole des enfants. Là.
Et moi, sinon, ça m'a... le fait qu'il soit attiré comme ça dans une tour et qu'à l'intérieur de la tour, ça soit tout blanc et qu'il se voit un peu de l'extérieur de son corps, façon expérience extrasensorielle et qu'il se voit lui-même, etc., et qu'il y a des extraterrestres tout gris, ça m'a un peu fait penser à Annihilation aussi. C'est à la fin, elle se fait attirer. C'est pas un phare, c'est une tour.
Ah oui, tout à fait.
Pour ceux qui l'ont pas vu,
il est pas terrible. Moi, je ne conseille pas.
Ouais.
C'est une non recommandation.
Bon, en tout cas, pour ceux qui l'ont vu, moi, je trouvais un petit côté comme ça. Mm-hmm. Et dernière chose que je m'étais noté, oui, comment il sait que les trous dans la tête des aliens sont forcément des globes oculaires?
Non, en guise d'orifice oculaire.
Voilà. Mais peut-être que je veux dire, est-ce qu'après tu dis pour les cheveux,
peut-être que voilà.
Donc j'aime pas trop qu'on fasse des, tu vois.
Bah c'est l'anthropomorphisme d'Aline. Mais Erwan, il est un peu bas du front.
Si ça se trouve, c'est pas les doigts qui l'ont fourré dans l'anus.
C'est peut-être leurs yeux pour aller voir.
C'est peut-être leur jargon.
Exactement, ça peut être leur jargon.
Et le bruit de fin, c'est en Erwan.
C'est en Erwan.
Okay.
Peut-être qu'ils ont, tu vois, intégré une sorte de fœtus.
Sonde. C'est une sonde, non?
Bah, on ne sait pas si c'est une sonde ou si c'est une sorte de fœtus extraterrestre. Ça peut être un peu des deux.
C'est fécondé. Super.
Donc voilà. En fait, c'est un mélange de plein de références, effectivement.
Bretonne et science-fictionnelle.
Un patchwork de références, de théories du complot, de trucs comme ça. En fait,
tout ça à la sauce bretonne, quoi.
À la sauce chouchène, quoi.
Donc l'oreiller bleu et blanc, c'est Bretagne, en fait.
Bah, en fait, c'est la marinière, tu vois.
Et la
marinière, pour moi, c'est pour ça, rayé bleu et blanc, pour moi, ça me fait directement penser à la Bretagne, à la marinière, à Armorlux et compagnie, tu vois.
Ouais.
Et effectivement, genre, je me suis pas mal renseigné sur les abductions et tout ça, j'ai lu pas mal de trucs et j'ai repris ce côté un peu, expérience sortie de ton corps, tu vois. Tu te vois de l'extérieur de ton
NDE.
Corps, c'est un NDE, un IRDC. Non, c'est.
Non.
C'est, bref.
Bah, NDE,
non,
en général,
c'est les expériences
Tu sors aussi ton corps.
Je suis en train en ce moment de lire un bouquin de Greg Egan qui a un recueil des nouvelles qui s'appelle Axiomatique. Il y a une des nouvelles à l'intérieur qui s'appelle La vue du plafond.
Mm-hmm.
En fait, ça commence dans une salle d'opération où le mec se voit un peu depuis le haut de la salle. Il voit même les autocollants au-dessus des lumières. Voilà.
Mm-hmm.
Bon, bref, le médecin le sauve. Il finit par se réveiller. Sauf qu'après, en fait, il est toujours bloqué, il se voit toujours dessus. Et c'est, donc il vit sa vie vue du dessus.
C'est comme un bug caméra dans une vidéo, tu sais, genre oh putain, je suis Keblo.
Exactement, mais il ressent tout à l'intérieur, il arrive, c'est un point de vue étrange. Et
oh putain, tu peux pas chier, impossible de chier quand tu te vois chier. C'est l'enfer. Tu peux pas, moi je serais bloqué direct.
Ceci dit, c'est pas mal. Tu te vois faire l'amour de vue du dessus, c'est un autre point de vue, c'est pas mal.
C'est comme les mecs qui mettent des miroirs en plafond.
Exactement,
c'est pas mal. Au début, c'est ce qu'ils croient. Au début, ils pensent qu'il y a un miroir au plafond.
Comme Vicky.
Voilà, j'ai des miroirs pas que au plafond, partout. Le jeu. Mais sinon, oui, recommandation Alien et les garçons, Greg Egan, Axiomatique, très bon recueil de nouvelles, je vous le conseille.
Moi j'ai l'impression que ta chronique nous a rendu un peu mieux. Je trouve qu'on va bien mieux qu'au début de l'épisode. Et d'ailleurs, t'as vu la vivacité de Vic ? Il était là, il a enchaîné les trucs, il a dit plein de trucs, il a fait des recommandations.
Je m'étais tout noté sur mon téléphone.
Non, mais surtout, bravo.
La première phrase que je m'étais notée, c'est les Bretons vont nous fumer.
Ouais, et c'est drôle parce que moi j'ai touché, cool, ça va toucher les Bretons, hashtag marketing. J'étais plutôt content à l'inverse, tu vois, parce que je suis très.
Mais c'est vrai que vous n'avez pas l'image et tout, mais de mon point de vue, Vic était bouche ouverte comme ça, en train de me regarder, genre oh, « waouh, qu'est-ce qui va se passer par la suite et tout ?» C'était assez mignon.
Tu l'as emporté. Ouais,
et Thomas dormait.
C'est ouais, ça. Ouais, deux fois. Non, j'ai dormi deux fois seulement, ça va. Sur une chronique de 45 minutes, c'est OK. Moi, je voulais parler de... T'as dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais juste notifier deux choses. Le Renault 5 Baccarat.
Oui.
On a un amour certain pour cette voiture.
Oh oui,
oh oui. Florian a failli acheter à l'époque une Renault 5 Baccarat avec l'argent qu'il avait fait dans son métier qu'on ne révélera pas. Et du coup, ouais, c'est fou, l'argent du striptease, ça peut t'emmener à t'acheter des véhicules.
Exactement, mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le modèle, ou en tout cas la gamme Baccarat,
c'est
de
pas
chez
n'importe
Renault,
quoi.
C'est pas n'importe quelle gamme.
C'est la gamme signature. Hein.
C'est la gamme, ouais, c'est la gamme aujourd'hui qui s'appelle, genre quoi, Élégance, je crois, ou je sais pas quoi.
Je sais pas.
Bref, il faut imaginer Baccarat. Une Renault 5 déjà surboostée en termes de moteur, parce que je crois que s'ils ont mis un turbo ou je sais pas quoi, enfin bref, mais surtout les sièges sont en cuir véritable,
en cuir de chameau,
camel, tu vois, et la carrosserie du coup est un peu sable, et t'avais une vraie climatisation à l'intérieur, t'avais le premier ordinateur de bord aussi de chez Renault, enfin tout ça dans une Renault 5 qui est quand même pas modèle de l'opulence chez Renault,
c'est quand même quelque chose, voilà.
Exactement,
je pense que c'était important de le souligner, et je voulais souligner autre chose d'un point de vue tout à fait plus autobiographique. Quand t'as mis Maniac là, mm-hmm. Je me suis mis à danser un peu là,
oui, j'ai vu, ouais.
Et je sais pas si j'étais bien ou si ça m'a renvoyé à cette nuit et que ça m'a fait bobo, quoi. J'étais vraiment entre les deux, mais ça m'a un peu, tu vois. Bon voilà, je voulais juste vous parler de ça. Parce que c'est vrai que le mec qui se met cher et tout.
On te la remettra à la fin.
Et dur, hein. Ouf, tu parles de ça là tout de suite. Bon voilà. Bah c'était super. Et donc la conclusion, on peut dire quoi ? Bah ne buvez pas les jeunes.
Si, ou en tout cas, n'allez pas dans les phares abandonnés tout simplement, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Juste, c'est pas bien, faut pas faire ça.
C'est vrai.
Mais buvez aussi avec modération tant qu'on y est.
Oui, oui.
Voilà, faites pas comme nous hier soir, hein. Super. on va se faire une petite conclusion quiz.
Ah oui,
ça fait longtemps. Et on est vraiment contents quand même. Hein. Putain, et ça nous a redonné du peps un petit peu tout ça.
Légèrement, ouais.
Et
Thomas, on sent que tu essayes de te convaincre toi-même. C'est vraiment, il est là, il fait ah, c'est cool, c'est reparti un petit peu sur ce troisième débat, on est bien là. Allez, c'est super, on y va. Oui, on va faire un quiz.
Allez, on y croit.
C'est bien, t'essayes de nous relancer.
Mais
toi, couille,
j'essaie de me chauffer un peu. Allez, bon, on y va.
On casse pas la dynamique, on se met la virgule. Et on y va ?
Allez, chaud.
Allez.
Et c'est l'heure du quiz.
Tu vois que t'as du pep et que t'es motivé là, Vic. Tu me fais mentir là.
Allez, Vic, envoie le son.
Mentir plutôt. Allez, envoie le son parce que quoi ? Tu nous mets de la musique ?
J'envoie le son.
Bah, j'appuie sur le bouton là. Tu appuies sur le bouton vert qui clignote.
C'est parti.
Ah,
on n'est pas bien là.
Ça fait on est bien, non ?
Ouais.
Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi dans le quiz ? Aujourd'hui, dans le quiz. Excusez-moi.
Ouais,
je vais vous parler de ces inventions françaises.
Excusez-moi. Super. Les inventions françaises ?
Les inventions françaises, celles que les Américains nous envient, genre comme le Minitel, la carte à puce, les grès verts à TT, ce genre de choses.
Vas-y, on est chaud.
Mais en fait, il y a bien plus d'inventions françaises qu'on imagine.
Oui.
Vous en doutez ? Et c'est ce que je vais vous faire découvrir, tout en vous amusant.
Ça va. Et putain, c'est un podcast culturel, hein, vraiment. Hein.
Tout à fait.
Franchement,
par rapport à
la sortie des
couples, hein. Il y a du talk, de la fiction, de la culture, et c'est vraiment super. Franchement, je serais vous, je m'abonnerais.
Je likerais, je donnerais de l'argent.
Ah, super. Ouais, vas-y, fais Florian, t'écoute.
Alors cette fois-ci, on va pas faire deux équipes parce qu'on va faire chacun son tour.
Allez.
On va faire à la cool, tranquille pour la reprise.
On peut quand même se donner des noms d'équipe.
Si tu veux.
Moi je trouve ça toujours un peu jovial et
cocasse. Thomas, c'est quoi ton nom d'équipe ?
Moi je suis Team Mano.
Vic, c'est Mano ?
Et toi, t'es Team Maniax ?
Moi je suis Team Plug.
Bien, on va commencer du coup avec la Team Plug.
Ouais.
Thomas,
oui.
Dites-moi si la clémentine est une invention française.
Oui. C'est inventé même par un religieux.
Oh, le monsieur est calé. J'ai commencé par un simple, mais quand même. Effectivement, la clémentine doit son nom au frère Clément.
de la congrégation du Saint-Esprit, qui était chef des pépinières de l'orphelinat agricole de Misserguin, près d'Oran,
en Algérie. Oui, c'est ça, juste à côté d'Oran. En fait, tu prends la R2 en sortant, c'est tu prends ça. Sur la gauche, 3 km,
c'est ça, il y a un panneau, de toute façon, c'est marqué les pépinières du frère Clément.
Exactement.
Tout à fait, ça fait donc un point.
Voilà.
Un point. T'as vu comme je parle de manière calme,
mais là, je suis bien. Wow. Je suis bien.
Est-ce qu'on se resservirait pas un petit coca?
On s'autorise tout, hein.
T'aurais pas du chouchen. Allez. Donc, un point pour l'équipe Plug.
Ouais.
L'équipe Mano.
C'est tout à fait nous.
Dites-moi si le kawé est une invention française ou non.
Le kawé?
Le kawé.
Si elle est française,
ouais.
Ça doit taper du côté de la Bretagne. Vu que t'as fait une chronique sur la Bretagne, et je dis qu'il y a un piège et je réponds non.
C'est une invention française.
Et voilà,
zéro point pour l'équipe Mano. En fait, ça a été inventé en 65 dans le nord de la France.
Ah
pas
bah
du tout en Bretagne. Par Léon-Claude Duhamel. Alors au début, il faut savoir que ça s'appelait le Anka.
Le Anka?
Le Anka, voilà. Genre comme Anka de pluie, tu vois. Quoi.
Donc, excuse-moi, mais du coup, c'est pas totalement... Enfin, le kawé, ça a été... C'est pas la même chose.
Si, parce que justement, ça s'appelait le Anka pour Anka de pluie. Et l'année d'après, l'agence de publicité de cette marque, sous Avas, je crois, a transformé le Anka en Anka, E-N-K, et ensuite en kawé.
Intéressant.
Pour le vendre à l'international.
Là. On apprend des choses.
Ils sont forts, ces publicitaires.
Franchement, oui. On apprend plein de choses. Et qu'est-ce qu'il est chiant, ce podcast.
Allez,
continuons.
La team Plug,
ouais.
Qui est tout seul. Dites-moi si le décapsuleur est une invention française ou non.
Le décapsuleur?
Oui.
Je pense que non.
C'est votre réponse?
Ouais, je dirais non.
Effectivement, ce n'est pas une invention française.
Bah oui.
Honte à nous.
Honte à nous,
c'est
effectivement.
Belge.
Non, pas du tout, c'est américain.
Ah,
c'est William Painter, en 1891, qui a fait ça. Alors, il faut savoir que le décapsuleur, il a inventé en 91 le procédé d'obturation par capsule,
ah ouais.
Mais qu'il a inventé le décapsuleur que 3 ans après.
Ah.
Voilà.
Ah ouais, donc c'est en gros, il restait 3 ans avec des bières...
C'est ça, je sais pas comment il faisait du coup,
quand il était vénère, bah,
il
comme je suis trop con.
Comme nous, avec des briquets. Hein.
Oui, ou des coins de table, ou des choses, tu vois.
C'est un peu comme la boîte de conserve et le... Et l'ouverture.
Et l'ouvre-boîte.
L'ouvre-boîte, merci.
Donc, ça nous fait 2 points pour Plug et 0 point pour Mano, qui va peut-être se rattraper avec la prochaine question.
Allez.
Les tubes néons, Mano, est-ce qu'ils sont français ou non?
C'est vrai qu'il est un peu chiant, ce podcast. Oui.
Tout à fait. C'est français. Je vous passe la description.
Merci, c'est bien. Parce que là, on se fait chier.
Par Jean-François.
Tout à fait. Oui, non, par la compagnie de Georges Claude. Voilà, point.
Attends, Georges Claude, c'est pas tes deuxièmes prénoms, Florian?
Non.
Ah, dommage.
Et toi, tu veux vraiment donner ma carte d'identité personnelle, quoi. Un point pour l'équipe Mano et 2 points pour l'équipe Plug. Plug va-t-il prendre la tête encore plus? Les bateaux à pied. Les bateaux à pied, alors je t'explique vite fait ce que sont les bateaux à pied. Ce sont des espèces de petites péniches que tu enfiles en fait au bout de tes pieds et qui te permettent de marcher sur l'eau comme en ski de fond, avec un long bâton dans chaque main.
Alors ça,
est-ce que c'est
j'en
français?
Veux. Alors
non,
ça, j'en veux. Excusez, hein. Mais je veux des bateaux à pied et on va en faire des aliens et les garçons, on va vous les donner.
Ah, on va faire des goodies bateaux à pied.
Comme tu t'en doutes, ça n'a pas marché parce que du coup, hein, sinon on aurait tous des bateaux à pied.
Voilà,
je vais voir sur Amazon quand même.
Bah ouais, c'est français ça.
Eh bah non, ce n'est pas français, ça a été inventé par Alexander Woznik. Qui vient de Manchester.
Ah, il était anglais.
Il était
anglais. Il faut être anglais pour faire une connerie comme ça.
C'était des bateaux à pied, d'accord. C'était des footbots.
Oui, bateau à pied.
Ah, super,
c'est comme ça que ça a été traduit.
D'accord.
Ce qui nous fait donc 2 points toujours pour Plug et 1 point pour Mano qui peut maintenant se rattraper.
Non. On a des chaussures bateau sur Amazon, mais il n'y a pas de bateau à pied.
Équipe Mano,
oui.
Avec Vic.
Oui.
Dites-moi si VLC, le petit logiciel pour lire les vidéos, est français, oui ou non?
Oui, et ça vient de l'école centrale, je dirais.
Exactement.
Voilà, bravo.
Aurais-tu l'année de lancement?
Je dirais que ça doit être...
Sincèrement, si tu me donnes l'année de lancement, je te donne 2 points.
Je dirais que c'est 98.
Pas de bol, 2001.
Ah, pas loin.
2001, et 2000, ça a plus d'un milliard de téléchargements. C'est une réussite française.
Bravo, bravo. Superbe.
Et qui a été faite à l'école centrale.
Exactement. Donc, 2 points pour Mano, 2 points pour Plug. Plug, dernière question finale.
Allez.
Les sacs à dos connectés pour pigeons. Est-ce que c'est français?
Moi, je voudrais juste savoir si tu te fous de notre gueule depuis le début du coup.
Non,
est-ce que t'inventes au fur et à mesure?
Non, pas du tout.
Ok. Donc les sacs à dos connectés pour pigeons.
Oui.
Je peux te dire à quoi ça sert. Ça sert
c'est
en fait à mesurer.
C'est des livres ou non ?
Non, ça sert à mesurer la qualité de l'air.
Ah bah c'est français ça.
C'est pas con.
Ouais, c'est pas con, hein.
Je pense qu'il faudrait plus prendre un oiseau qui s'est volé qu'un pigeon, mais
ça vole bien si c'est pas con. Attendez, ça migre et tout. Attendez, excusez-moi. Moi, je peux pas laisser ça. Ça
donc, selon toi, c'est français.
Ouais, je pense qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et des bonnes.
Et ben non, c'est encore une invention anglaise de Plume Labs.
Ils sont forts.
Voilà, et qui en fait, effectivement, devait mesurer la qualité de l'air au-dessus de Londres. Donc, ce qui nous donne une parfaite égalité de deux. Vous choisissez ensemble la musique de ce fin de podcast.
Attends, mais moi, j'avais une question à moi.
Ouais. Non, c'est fini, il n'y a plus de questions.
Oui, mais j'ai une question en fait, il a une question en moins, il s'est coupé.
Ah,
tu m'étonnes.
Pas de bol.
Ça triche.
Pas de bol.
Et le quiz, le quiz. Alors, carnaval.
Bah, trouve une question.
Le cinéma. Le cinéma. Est-ce que c'est une invention française, oui ou non?
Frère Lumière.
Tout à fait, ça fait 3 points, bravo.
Ouais, tu choisis le truc, la musique, et on va conclure ce podcast. Nous, on va aller faire dodo.
Ah ouais.
Parce qu'on est fatigué. Yes.
Et c'est parti.
Allez. Bon. Est-ce qu'on va finir comme ça à chaque épisode? J'ai le précédent, on a fini un peu.
C'est vrai, mais on pourrait mettre cette musique là tout le temps pour toutes les fins d'épisode. Moi, je suis trop chaud.
Donc, et ben, on est content. Alors,
réseaux sociaux, tout ça.
Réseaux sociaux,
tout ça.
Les 5 étoiles, partout. Voilà. Parlez-en autour de vous si vous voulez bien.
Le service postal aussi, on
exactement,
vous écrit.
Envoyez-nous des messages si vous voulez des stickers, nous dire bonjour et tout. On répond à tout le monde.
Et des gens sympas. Et aux gens à qui on envoie des cartes, vous pouvez aussi nous envoyer des cartes, bande d'ingrats.
Ah, super.
La vengeance. Et surtout, on aime nos auditeurs. On aime vraiment nos auditeurs. Ils nous envoient des messages qui sont super gentils. Et c'est très.
C'est marrant.
On a la meilleure communauté en
vrai. Franchement, vous êtes les meilleurs. Merci.
Et surtout, on n'en a pas parlé pendant cet épisode, mais on va sortir un bouquin. Donc suivez-nous vraiment de très près sur Twitter et sur Facebook parce qu'on va en parler très bientôt.
Alors, à nouveau, à chaque fois que tu en parles, je préfère préciser que ce sera auto-édité et pas chez Grasset, mais c'est toujours bien. En effet, là, on est en train de boucler le truc, on touche au but.
Voilà. Et vous allez bientôt pouvoir les gagner sur les réseaux.
Dernière chose, on annonce juste prochain épisode sera un spécial.
Utopial.
Avec plein de choses à rapport aux utopiales. On s'en reparle.
Parce qu'on avait bien kiffé l'année dernière et on y retourne
exactement.
Cette année.
Allez, on se retrouve bientôt. Bisous. Allez vous coucher, ne buvez pas trop.
Ciao tout le monde.